Femmes Premières, une association de plus en faveur des femmes, plutôt un mouvement qui s'enclenche pour que progresse l'égalité hommes-femmes à travers le monde. Créée à l'initiative de Chantal Néré, cadre de direction dans un grand groupe de communication, Femmes Premières a tenu son premier colloque jeudi 23 juin, les femmes des pays émergents, nouvelle force économique mondiale, sous les bons auspices de l'Assemblée nationale qui l'a accueillie. Parmi les femmes venues témoigner, Imam Bibars, égyptienne et présidente de l'Association pour le développement et l'émancipation des femmes. Marie-Josie Merman, députée de Moselle et présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, avait également tenu à être présente.
Femmes Premières, une nouvelle association pour l'égalité des hommes et des femmes, décidément, vient de voir le jour. Femmes Premières est une association ouverte aux femmes et aux hommes, de bonne volonté sans aucune distinction, en commun, les sujets d'égalité, hommes, femmes. Femmes Premières est créée à l'initiative de Chantal Néré, une femme d'expérience pleinement insérée dans la vie professionnelle. Chantal Néré.
Je participe depuis à peu près une bonne quinzaine d'années à des actions au sein de différentes associations, donc ce n'est pas nouveau. C'est vrai que j'ai eu, dans le cadre professionnel, à mettre en place un certain nombre de rencontres auprès de populations telles que les personnes en situation de handicap, les jeunes de banlieue, la culture urbaine. Donc toutes ces rencontres ont abouti à cette réflexion de se dire que c'était important pour moi, notamment sur la thématique femme, de mettre en place à l'extérieur, donc d'un point de vue non professionnel à l'extérieur, cette association pour m'y consacrer pleinement avec ce groupe de femmes qui, autour de moi, dès le départ, étaient partants. Et lorsque nous avons testé le concept et surtout les projets que nous avions, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une adhésion totale.
Dont acte, première table ronde de Femmes Premières dans les locaux de l'Assemblée nationale et en partenariat avec Euromed Management le 23 juin dernier, les femmes des pays émergents, nouvelle force économique mondiale, point d'interrogation.
On voulait vraiment travailler sur cette thématique parce qu'on est tous persuadés à Femmes Premières que ces femmes sont porteuses d'un avenir. C'est vraiment, il faut se tourner vers ce qui se passe. Il se passe des choses dans ces pays émergents et nous avons tous à gagner, à étudier, à analyser, à voir comment on redynamiser le débat en France et en Europe sur la parité homme-femme.
Le débat, précisément. Il y a bien un point qui, lui, ne fait pas débat. Il n'y a aucun État au monde où l'égalité homme-femme existe totalement, où la moitié de l'humanité ne songe pas à dominer l'autre, a fortiori, et même si le raisonnement paraît absurde, mais après tout il l'est dans les deux sens, il n'y a aucun pays où ce qu'on appelle le gender gap est en faveur des femmes. Virginie Martin, docteur en sciences politiques.
Non, il n'y a pas de gender gap inversé. Là où il y a le moins de gender gap, c'est-à-dire de différence entre les hommes et les femmes, ce sont dans les pays scandinaves, où tout n'est pas non plus parfait, mais n'empêche que c'est là que les quatre critères du gender gap, à savoir participation économique, participation politique, accès à la santé, aux soins et accès à l'éducation, c'est vraiment là que l'on trouve ces quatre indicateurs les plus égalitaires, les plus paritaires entre les hommes et les femmes. En bas de classement, il y a l'Arabie Saoudite et évidemment, au fur et à mesure des classements, on va trouver la France en 17e position par exemple. La Chine est entre la 55e et 60e position. La Chine progresse pas mal, un petit peu comme si les années Mao sur l'égalité absolue entre les individus, que l'on soit homme ou femme, etc., avait finalement fini par payer. Et ça, c'est quand même important de le noter pour la Chine, même si évidemment après il y a eu d'autres époques à partir de la fin des années 70, l'enfant unique, etc. Mais quand même, il y a une espèce de l'état d'esprit du communisme permet quand même aujourd'hui de travailler sur un terreau un peu favorable en Chine là, sur cette question. L'Inde a encore beaucoup de mal et aujourd'hui régresse, par exemple, sur le gender gap. Notamment parmi les explications, bien entendu, l'Inde est un pays excessivement traditionnaliste avec des traditions familiales très très fortes, les castes, etc. Et puis aussi, n'oublions pas qu'il y a en Inde plus de 15% de la population qui est de culture musulmane et qui est une culture qui parfois, pas toujours, hein, mais parfois peut être bien évidemment relativement défavorable aux femmes. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard hein, qu'on trouve des pays comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite en fin de classement, donc les pays du MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient, Maghreb, de par cette culture musulmane. Mais je ne veux pas stigmatiser non plus cette culture, je trouve que c'est très important de le dire en même temps qu'on dit ça, parce qu'aujourd'hui, on assiste en Iran, dans les pays du Golfe, au Maroc, à ce qu'on appelle un féminisme islamique. Donc c'est quand même très important de le noter. Ça veut dire que ce sont des femmes qui sont excessivement voilées et qui vont travailler les textes, et qui vont travailler le Coran, et qui travaillent la charia. Et du coup, il y a aussi quelque chose de la modernité dans ce contexte musulman et qui est tout à fait passionnant. Le Brésil, quant à lui, pour parler vraiment des pays émergents tels qu'on les définit, excepté la Russie pour l'anecdote, le Brésil, quant à lui, s'en sort aussi pas trop mal dans ce gender gap, à peu près à la 70e position, 20 places à peu près après la Chine. Mais ce qui est intéressant au Brésil, bien sûr, c'est cette élection de Dilma Rousseff, qui est une explosion, un symbole énorme. Ça joue force de modèle, et c'est ça qui est important, parce que du coup, ça rend les choses possibles. Surtout qu'en plus, elle ne se contente pas d'être juste présidente du Brésil. Elle a mis ce que certains éditorialistes ont appelé des Amazones dans son gouvernement. Et il y a des ministères très importants qui sont aujourd'hui tenus par des femmes au Brésil. Et donc cette force de modèle sera aussi quelque chose de très important dans ce pays-là.
Pour les poids lourds démographiques des pays émergents, le Brésil, c'est l'univers des possibles. L'Inde, c'est figé. La Chine, c'est complexe. Un avis que partage pleinement Bin Gao Lonier, docteur en lettres et chargé de mission Chine du groupe AXA.
Depuis les années 50 du siècle dernier, il y a eu une véritable révolution. La légalité homme-femme a été vraiment établie. Avec la modernité et l'ouverture, certaines traditions sont revenues et dans le sillage, un retour de machisme. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la société chinoise est avec beaucoup de contradictions. D'un côté, les femmes ont acquis une place dans la société. De l'autre côté, le machisme est toujours là. Mais je pense que les femmes sont vraiment très très actives dans la vie de tous les jours, dans la vie économique et politique.
Agir, se battre, oui, évidemment, mais l'on ne combat bien que ce que l'on cerne bien. Alors, pourquoi donc une partie de l'humanité cherche-t-elle donc à dominer l'autre ? Virginie Martin, docteur en sciences politiques.
Nous avons, je trouve, beaucoup de mal à sortir d'une vision biologique de la femme et de l'homme. On est toujours ramené à ces stéréotypes sexués. À savoir, les femmes seraient empathiques, douces, diplomates, etc., et créeraient de l'harmonie. Et les hommes seraient des guerriers, aimant la puissance, le pouvoir, l'argent, voire la corruption. C'est une espèce de division totalement aberrante de l'humanité. D'abord, c'est aberrant en termes ne serait-ce qu'individuels. Nous connaissons des hommes tout à fait empathiques, sympathiques, tout à fait en phase avec le développement durable ou des choses comme ça. Et nous connaissons des femmes qui traversent ces stéréotypes et qui aiment l'ambition, le pouvoir, qui font des études très poussées, très, très compétitives, et qui après embrassent des carrières dans lesquelles aussi la compétition est rude, etc. Et donc elles aiment ça. Donc ça revient véritablement à une impasse que d'être en fait dans cette lecture biologique des êtres. C'est véritablement dramatique. C'est dramatique pourquoi ? Parce que vous comprenez bien que si je suis une femme et qu'on m'explique que je suis dans la diplomatie, la douceur, l'empathie, etc., ça veut dire que de toute façon, par exemple, dans une entreprise, prenons le cas en France, dans une entreprise, je vais faire quoi comme métier ? Je vais embrasser des fonctions de communication et de RH qui vont être incompatibles avec ma capacité à dépasser ce qu'on appelle le plafond de verre, voire des parois de verre. Parce que forcément, je vais être complètement dans un angle mort et je ne serai pas parmi les potentiels qui vont pouvoir monter, etc., etc. Alors, il faut faire attention et raisonner en termes de genre et pas de sexe. En définitive, il y a des femmes qui, de par leur genre, si je puis dire, aiment le pouvoir, le ci, le là, etc. Et tout ça se mixe et il faut faire attention à ne pas réifier ces catégories hommes-femmes à l'aune de la simple biologie. On sait aujourd'hui, les études de gender studies le montrent, qu'il n'y a pas de relation directe entre je suis né avec un sexe biologique féminin et je développe des capacités féminines. C'est pas vrai. C'est une question de construction sociale, de socialisation et d'injonction aussi sociale à endosser certains rôles. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Troisième point qui est aussi une impasse dans cette histoire, c'est que les femmes subissent tout au long de leur vie énormément d'injonctions au bien faire. Nous devons être des bonnes élèves, pas trop dissipées, puisqu'on dit toujours que les petites filles sont beaucoup plus gérables dans les classes que les petits garçons. Nous devons être après de bonnes épouses, nous devons être évidemment de belles femmes, et en plus nous devons être in fine des bonnes mamans, Mais ces injonctions sont très pesantes. Et quand on parle des femmes qui sont dans la culpabilité, etc., on voit bien que cette culpabilité arrive forcément face à cette injonction. Mais là, tout d'un coup, quand on parle de pays émergents, quand on parle d'international, en plus, aujourd'hui, on nous rajoute une injonction qui serait celle de sauver et de régénérer le monde qui serait en train de partir à la dérive. Et c'est encore sur les femmes que repose cette responsabilité, c'est encore sur leurs épaules. Donc il faut faire très très attention à ça. Les hommes aussi ont leur responsabilité pour que la planète ne parte pas à volo, si tant est qu'elle parte à volo. Et les femmes qui n'ont pas envie d'aller sauver la planète, elles ont aussi le droit de ne pas le faire. C'est aussi un droit, une liberté. Et la liberté au féminin est quelque chose qui est véritablement très compliqué et qu'on a été peu autorisé à prendre de par notre éducation, mais pas de par notre sexe biologique.
C'est dit, et pour paraphraser Groucho Marx, les hommes sont des femmes comme les autres, à tout le moins en ont-ils le droit et réciproquement. Mais de là à ce que les uns et les autres le prennent, il y a du travail. Parmi les initiatives nombreuses, il y a celle-ci très intéressante de Marie-Josée Zimmermann, députée de la Moselle, présidente de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Marie-Josée Zimmermann.
Ce que je souhaite vraiment aujourd'hui, c'est que tous les ministres des Affaires étrangères des pays occidentaux soient en capacité, lorsqu'ils vont dans des pays émergents, d'avoir un dialogue avec l'ensemble des dirigeants, mais également rencontrent les femmes qui comptent dans l'émergence de ce pays. Michelle Bachelet, qui est directrice exécutive de l'ONU Femmes, rencontre régulièrement tous les ministres des Affaires étrangères des pays occidentaux et passe ce message.
Marie-Jo Zimmermann s'est fait fort de rappeler que quand elle était professeure d'histoire, elle était frappée par le fait que les manuels, hormis l'image de Jeanne d'Arc, relataient l'histoire de la moitié seulement de l'humanité. Beaucoup de témoignages, forts, terribles, cruels parfois, lors de ce colloque très nourri, des témoignages d'Amérique latine, d'Égypte. Femme première s'inscrit dans ce mouvement où le réseau des femmes éclos. Littéralement, il y a moins d'un mois, la Fondation des femmes pour la Méditerranée. Ce sera du reste l'objet du prochain colloque de femmes premières dès la rentrée. Quel rôle possible pour tous ces réseaux ? Chantal Néret, présidente de Femmes Premières.
Est-ce que ces réseaux de femmes ont un réel pouvoir ? Est-ce que ces réseaux de femmes créés d'ailleurs au sein de grandes entreprises comme Areva ou même de grands groupes scolaires comme HEC, qu'est-ce qu'ils apportent? Et lorsque ces femmes adhèrent dans ces réseaux-là, est-ce que c'est pour exister? Est-ce que c'est pour la promotion dans la société, etc. Voilà, ce sera l'objet du débat du mois de novembre de Femmes Premières.
Femmes Premières a bien sûr son site internet où l'on peut tout retrouver, www.femmespremières en un seul mot, femmes et premières au singulier.org.